podcast.com. Essaye ça.
Hey, bonjour à tous, magiciens et magiciennes. Vous écoutez Terrain Basique, le plus québécois de tous les podcasts sur Magic the Gathering. Je vous écœurerai pas avec ma question habituelle que je me fais poser. Je vous le dis tout de suite. Ce qu'on écoute en background ce soir, c'est Wild Guns Reloaded, un jeu western vraiment le fun d'arcade. Il est sorti sur Super Nintendo. Vous pouvez jouer, vous pouvez acheter la version tweakée récente. Un bon jeu, j'ai passé un bon quart d'heure si je jouais avec ça. Puis, pour faire un petit tour de table, je suis accompagné par deux excellents collaborateurs. À ma gauche, j'ai M. François Lompré. Comment vas-tu, François?
Salut les magiciens et les magiciennes, ça va bien. Je joue à Magic en crise de ce temps-ci. Ouais, c'est le Nordgasm quotidien.
Ouais, ça, de ce que tu as écrit, j'ai l'impression que tu as passé ta paye de vacances d'avance en carte Magic.
On a dit qu'on n'en parlerait pas, là.
C'est un secret.
Et vous avez entendu la voix de notre favori, le All-Star, Emmanuel Côté-Séguin. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
Salut Jonathan, écoute, on se plonge dans Outlaws of Thunder Junction. C'est là que ça se passe. En ce jour de mardi, jour d'enregistrement, les trailers sont sortis. Vous irez voir, là, ils ont fait un petit vidéo d'animation là, pour lancer le tout. On va regarder les nouvelles mécaniques, les quelques cartes qui sont sorties, et puis ça va nous starter la spoiler season de Outlaws of Thunder Junction.
Exactement. Juste une petite nouvelle que, comme moi, mon Facebook hurlait aujourd'hui. J'ai eu tort, à Chioc, c'était pas la ZAV.
Non. On s'en reparle.
Alright.
On peut se plonger tout de suite dans le bain si vous le voulez bien. Alors voilà, Outlaws of Thunder Junction, c'est classique là, western. On va reconnaître tous les tropes. Pour commencer, je vous ai sorti là parce que là c'est un peu compliqué. Quand vous allez ouvrir un paquet là, c'est possible que vous ayez comme un peu de misère à vous y retrouver parce qu'il y a 7 symboles possibles. Fait qu'on va essayer de démêler tout ça un peu. C'est qu'il y a le set principal, Outlaws of Thunder Junction, avec le petit symbole du chapeau de cowboy. Ça, c'est bon, on est habitué, c'est le set principal. Après ça, il y a le Commander set. Ça, c'est possible qu'il y en ait là, dans les collecteurs, boosters, tout ça. Il y a également le OTP qui appelle le petit symbole de prison, genre ça ressemble un peu à une porte de prison. Ça, c'est les breaking news. C'est un bonus sheet, fait qu'il ramène le concept des bonus sheets. Donc 65 cartes là, parce que sur une carte de, sur un une feuille de cartes de Magic, il y a 65 cartes. Ces cartes-là seront pas légales en standard. C'est seulement légal là, dans leur format respectif. Là. Fait que si c'est une carte qui est légale en moderne, elle va rester légale en moderne, mais elle sera pas légale en Pioneer ou en Standard, etc.
Et puis, pourrait rajouter de la saveur dans les drafts, ça?
Ça rajoute de la saveur dans les drafts. Là, on est rendu habitué, là, on l'a vu plusieurs fois, là, que ça avait commencé avec Strixhaven, on l'a vu avec Brothers War, le dernier qu'on a vu c'était Wilds of Eldraine. Cette fois-ci, la thématique est à saveur criminelle. Fait qu'ils sont allés voir à travers l'histoire de Magic les sorts, puis on va se repencher là, sur la mécanique de committing a crime là. C'est la thématique criminelle, fait que c'est pas juste des cartes qui commit a crime là, mais tu sais un peu tout ça. Fait que on va en voir quelques-unes. Sinon ben il y a l'espèce de porte de vault là, ouais. De gros coffre-fort, c'est avec l'abréviation, c'est BIG, c'est B-I-G, parce que c'est les Big Score. C'est 30 cartes qui se retrouvent là-dedans. Dans le fond, c'est que je pense qu'il avait voulu faire un set prologue.
Ah.
à Outlaws of Thunder Junction, et avec le succès retentissant de March of the Machine, The Aftermath, ils se sont révisés et puis ils l'ont juste inclus dans le set principal. Donc ça va tout se retrouver là-dedans, puis ça fait référence à des trucs là, qui se retrouveraient dans l'espèce de vault Mog Taranao qui est convoité là, par Oko puis sa gang. Entre autres. On se lancera pas trop dans l'histoire, là, mais dans le fond, c'est des objets magiques, légendaires, toutes sortes de choses comme ça. Ça va se retrouver dans le set principal, puis ça va être légal là, en standard.
Okay.
C'est comme dans le fond, considéré là comme Aftermath l'était, là, sauf qu'il sort à l'intérieur du set. En plus, puis le fait d'avoir les play boosters, les différentes slot, là, ça leur permet de rentrer ça là-dedans. Là.
Ouais.
Et puis, ils ramènent également là, les special guests. Là, c'est maintenant la tradition dans chaque set. Des reprints d'un peu de partout qui essaient de garder un peu la thématique du set. Là. C'est le même symbole qui reste d'un set à l'autre, là, les espèces de petites étoiles avec un pentagone. Il y a 10 cartes là, qui sortent en tant que special guest dans le set. Ça aussi, ça reste légal là, dans le format qui sont légales. C'est pas légal en standard, mais ça va devenir légal en Commander, Legacy Vintage, là, où est-ce que c'est déjà légal? Oui. On peut en voir quelques-unes, peut-être. Par exemple, si je vous ai sorti le Mana Drain, ça va être sur la feuille des Breaking News. Counter Target Spell... et puis après wow. Après ça tu te rajoutes le mana colorless équivalent au spells mana value à ton prochain fort, main phase, c'est fort, fait que ça va, mais vous pouvez vous dire aussi ah tiens ça va arriver sur Arena, fait que vous pouvez peut-être commencer à penser à des decks à vous brouer,
j'aime ça, juste pour parler rapidement de Mana Drain, là, vraiment le bout, c'est qu'on parle constamment du Power Creep, mais il y a vraiment quelqu'un à l'époque qui ont imprimé cette carte-là, qui ont fait comme Counterspell, 2 bleus.
Qu'est-ce qui manque?
Du ramp.
Ouais. C'est rajouter l'insulte à l'injure. Là. Parlant d'insulte à l'injure, il reprint Oko Thief of Crowns. C'est banni genre dans tous les formats ou presque. C'est vraiment juste pour faire chier le monde qui draft. Là, Parce que si vous avez drafté dans le temps de Eldraine, l'original, là, Oko, c'était une bombe incroyablement imbattable. Là, c'est mythique rare, c'est sur un sheet différent. Ça va être encore plus rare, là, mais si tu réussis à te pogner ça dans ton paquet, là, je vous le dis tout de suite, poignez-les.
Ouais, joue ces couleurs-là.
Ouais, c'est ça. Ou splash pour, là, mais écoute, c'est une bombe incroyable. J'aime bien son nouveau artwork qui fait un petit bec volant. je vous ai manqué. Fait que ça, c'est pour les spéciales, les breaking news. Sinon, dans le big score, là, on parlait c'est la Vault, là. On a le Vault Born Tyrant. Fait que y a des dinosaures qui sont même nés dans le coffre-fort, on dirait. C'est une 6-6 pour 7, là, 5 colorless, 2 verts. À chaque fois que Voldemort Tyrant ou un autre créature avec power 4 ou plus rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu gagnes 3 de vie et tu piges une carte. Lorsque le Tyrant meurt, si ce n'était pas un coup de token, tu crées un token qui est une copie de celle-ci, sauf que c'est un artefact en plus de ses autres types. Fait que ça se copie là, un robot ou une espèce de golem de Tyrant. Fait que c'est une 6-6 qui revient, qui te refait un autre 3 de vie, puis j'ai une carte. Là. Ça coûte cher, mais c'est quand même
pas pire.
Sinon, on peut voir le Torpor Orb. 2 colorless pour un artefact qui empêche toutes les trigger abilities des créatures qui rentrent sur le battlefield.
Ça, c'est très bon. Un Commander, c'est très bon.
Ils ont pas encore mis le wording, là. Je pense que ça arrive dans Bloomborough, là, le wording de enters au lieu de entering the battlefield, mais on va commencer à s'habituer tout de suite, fait que ça serait creatures enters the battlefield, enters on cause ability to trigger, là, mais
je sais pas ce que c'est un excellent hate bear. mais qui a même pas de toughness puis qui
magicien. Ouais, non, écoute, c'est très situationnel. Là, c'est je pense très que ça va peut-être aller dans des decks de prison ou des affaires. Là,
ouais.
Peut-être du sideboard tech là.
Ouais. Ouais. Mais il est colorless, je sais pas. Je pense comme. Ouais. On va voir.
Ouais. Sinon, on dirait que je pense que c'est un restant là, de Caverns de Lost Caverns of Ixalan parce qu'il y a même, tu sais, il y a même pas la thématique là. C'est même pas comme si c'était un personnage de Ixalan qui s'était retrouvé sur Thunder Junction là. C'est le Ultec Matter Weaver, deux colorless, un blanc, un Human Artificer 2/4. À chaque fois que tu castes un creature spell, tu choisis soit de faire un 1/1 colorless nombre artifact creature token ou tu fais un token qui est une copie d'un target artifact token que tu contrôles. Il y a sûrement des affaires à faire avec ça.
Ouais, il fit dans Ixalan.
Ouais, mais c'est ça, ouais. C'est bizarre. mais c'est parce qu'il y a il y a une petite thématique, il y a flavor avec le vote qu'on va peut-être voir un peu plus quand on va regarder l'histoire. Sinon, dans les special guests, je l'ai mis ici, là, fait qu'il reprint Desert, une vieille land qui rajoute un mana colorless, et puis tu peux le taper pour faire un dégât à target attacking creature seulement pendant un combat, à la fin du combat step, donc s'il a fait des dégâts. Ce qui était le wording sur la carte précédemment, mais c'est juste intéressant parce qu'ils ont rajouté le subtype Desert sur la carte Desert, qui ne l'était pas parce que ça n'existait pas le subtype Desert là, quand ça avait été printé la première fois. Voilà. Et puis, gardez ça en tête, là, les déserts, ça va revenir. Sinon, pour les commanders, ils ont sorti les face cards là, des quatre decks de pre-con, là, dont Yuma, Proud, Protector. 5 colorless, un rouge, un vert, un blanc, un Human Ranger 6-6 qui coûte 1 colorless de moins pour chaque land dans ton graveyard. Lorsque tu attaques avec ou qu'il rentre sur le battlefield, tu sacrifies un land et si tu le fais, ben tu peux sacrifier un land et si tu le fais, tu piges une carte. Et à chaque fois qu'il y a un Desert Card qui est mis dans ton graveyard de n'importe où, qu'il soit millé, discarté, etc., tu fais un 4-2 Green Plant Warrior Creature Token avec Reach. C'est le petit bébé cactus que tu vois dans ses mains. Il y a une side story avec lui, là, c'est bien cute. Là, une espèce de créature cactus. Ça va avec la thématique du set.
Ah, il s'appelle Yuma, comme le film classique 3-10 to Yuma.
Oui. On va se plonger dans les mécaniques. Ils amènent un nouveau espèce de parapluie englobant plusieurs creature types auxquels on est habitué, qui vont tous être désignés comme outlaw. Fait que les bandits, on peut voir certains, fait que ça va se retrouver sur plusieurs cartes. Vous porterez attention, là, vous allez voir ces creature types là pas mal là, à travers le set. On peut voir ici avec Rakish Crew, un enchantement pour 2 colorless, 1 noir. Lorsqu'il rentre sur le battlefield, tu fais un 1-1 Red Mercenary Creature Token. Ça, c'est un token qu'on va revoir. Il y a plusieurs cartes qui font des mercenaires comme ça que tu peux taper pour donner +1/+0 à une créature que tu contrôles seulement en Sorcery Speed. Et puis à chaque fois qu'il y a un halt là que tu contrôles meurt, chaque adversaire perd une vie, tu gagnes une vie. Et qui sont donc ces Outlaws? Creature type, c'est assassin, mercenaire, comme le token que ça crée, pirate, rogue et warlock. Fait que tout ça rentre dans la catégorie de Outlaws. On peut voir ici une autre carte là, qui crée un mercenaire. L'autre mécanique, c'est Spree. Spree. C'est une espèce de kicker avec plusieurs modes. On va retrouver l'espèce de petit plus à côté du mana cost. C'est que tu dois le caster et ensuite choisir un ou plus des modes additionnels et rajouter le casting cost qui y est associé. On peut voir ici avec Unfortunate Accident, ça coûte un noir plus, soit deux colorless, un noir pour Destroy Target Creature. Ou un colorless pour créer un mercenaire. Fait que si tu pourrais le caster seulement pour un noir, un colorless pour faire un mercenaire, tu pourrais le caster pour deux noirs, trois colorless pour détruire une créature et créer un mercenaire. Ça donne le choix. Par contre, tu peux pas le caster sans choisir de mode. Fait que tu peux pas juste payer un noir pour faire un spell qui fait zold puis ajouter à ton storm count, par exemple.
Mettons que tu pourrais jouer gratuitement sans le payer, mais ça marcherait pas.
Ça marcherait pas. Un peu comme Kicker, là, tu sais.
Ouais.
Où est-ce que tu dois quand même payer le Kicker, là. Fait que possiblement, si tu peux le caster sans le payer, là, faudrait checker là, le wording, là, mais normalement, si tu peux le payer sans le caster sans le payer, ben, tu dois quand même payer le spree cost.
Ouais. Ouais.
T'sais, ça te réduirait de 1 noir, c'est en instant, là, c'est quand même pas pire, là. Bon, c'est un removal à 4, ça, c'est un peu cher, mais à cause de la... l'effet modal, des fois, ça peut le rendre un peu plus attrayant.
Attends, il y a une quote à lire, là. C'est « Looks like you've got a train to catch », comme dans chaque bonne histoire de cowboy.
Yes.
Habituellement, c'est une madame, là, qui ouais. est attachée à ses trains.
Bon,
mais là, c'est un petit monsieur.
Qui est attaché sur les rails de train. Hein. Laughing Jasper Flint. Sinon, une autre carte avec Spree, le Final Showdown. Pour un blanc et plus, tu choisis soit plus un, colorless, toutes les créatures perdent leurs habilités jusqu'à la fin du tour. Plus un autre colorless, tu choisis une créature que tu contrôles, elle gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. Et trois colorless et deux blancs, tu détruis toutes les créatures. Fait que ça va faire un espèce de gros board wipe qui peut te permettre de faire plein d'affaires. Ça devient coûteux un peu, là, 3 colorless, 3 blancs, mettons, juste pour faire un Destroy All. Mais le fait que t'aies les autres options, ça peut être...
Mais si tu peux pas faire le All Creature Lose Abilities puis avoir un Destructible.
Oui, parce que dans toutes les cas où est-ce qu'il y a plusieurs trucs qui se passent sur une carte, ça va ouais. toujours dans l'ordre. Ouais. L'ordre de résolution va toujours dans l'ordre de lecture. Fait que si tu fais. Mettons que tu ferais les trois modes,
ouais.
ben là, ça se résout. Toutes les créatures perdent leurs habiletés. Ensuite, tu donnes indestructible ouais, à une créature de ton choix. Ensuite, tu détruis toutes les créatures. Donc, celle qui t'a donné indestructible à survivre.
Moi, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup que cette carte-là explose en valeur pour qu'elle vale A Fistful of Dollars.
Oh! Et combien ce serait un fistful of dollars?
Je sais pas, il y a bien du monde qui meurt pour l'avoir, fait que c'est tough mettre la prix. Qu'est-ce que la vie d'un homme sur le plan de. C'est quoi le nom du plan?
Thunder Junction.
Thunder Junction, ouais. Qu'est-ce que la vie d'un homme ou d'un outlaw sur Thunder Junction?
Thunder Junction.
On va le découvrir bientôt.
Oui, et puis la prochaine mécanique qu'on va voir, tu sais, c'est commettre un crime. Hein, parce qu'il y a beaucoup de criminels. On en avait eu un avant-goût à Chicago. Quelques cartes, là. Faites commettre un crime, là, c'est quand tu castes un spell, t'actives une habilité ou tu mets un trigger d'habilité sur le stack qui target un ou plus des choses suivantes, soit un adversaire, soit un spell ou une habilité qu'un adversaire contrôle, soit un permanent qu'un adversaire contrôle, soit une carte dans le graveyard d'un adversaire.
Fait que c'est vraiment... j'aime ça, c'est tout ce que le monde vire salty quand ça les affecte. Direct damage, jouer avec les cartes qui des counter spells.
Du mill, toutes les interactions pas mal. Là. C'est juste que ça compte pas, mettons, là, tu peux targeter ta propre créature, c'est pas un crime.
Non.
fait qu'on peut voir aussi là, avec le Free Strider, Lookout, deux colorless, un vert, Human Rogue 3-3, c'est donc un outlaw, parce que c'est un rogue. 3-3 avec Reach, ce sera le Secret Reach dans le set. À chaque fois que tu fais un crime, tu regardes le top, les 5 cartes du top de ton deck, et puis tu peux mettre un land card parmi celles-ci sur le battlefield tapé, et puis tu mets le reste random en dessous de ton deck, et ça trigger seulement une fois, là. Et puis vous allez voir que la plupart des trucs qui disent, là, faites telle action quand tu commets un crime, ça va souvent juste se résoudre une fois dans le tour. Là, ils veulent pas qu'il y ait trop de qu'il y ait trop de loop là, qui puisse être faite, parce que des fois, il y a des affaires que tu peux target assez souvent. Sinon, Giza de Hellraiser est dans le crew de Oko. 3 colorless, 2 noirs pour Human Warlock, Legendary Creature, Warlock aussi, c'était dans les Outlaws. C'est une 4-4 avec Ward, paye 2 de vie et paye 2 colorless quand même. Elle donne +1/+1 et menace à tous les squelettes et les zombies que tu contrôles. Et à chaque fois que tu commets un crime, tu fais 2 blue and black zombie rogue creature token tapé. Et ça trigger seulement une fois par tour. C'est quand même pas pire, ça.
Ouais.
J'aime bien sa petite pelle avec une tête de mort
dessus. Ouais, le dessin est pas mal cool.
Sinon, mécanique plot. Donc on fait des plans, on se prépare pour faire des heists et faire toutes sortes de trucs. Ce qui va se passer, ça rappelle un peu Fortell, je dirais. Si tu plottes quelque chose, dans le fond, c'est que tu vas l'exiler face up. Fait que là, on sait c'est quoi. Et puis par la suite, sur un tour subséquent, tu peux pas le caster tout de suite. Sur un tour plus tard, tu peux caster ce spell-là pour gratuit et à Sorcery Speed. Ce que ça veut dire, là, par exemple, si on voit Make Your Own Luck, 3 colorless, un vert, un bleu en sorcery, tu regardes les 3 cartes du top de ton deck, tu peux en exiler une non-land card parmi celles-ci. Si tu le fais, elle devient plotted. Comment qu'on pourrait dire ça, là, planifié, I guess. Et puis, tu mets le reste dans ta main, quand même. Hein, fait que, tu sais, c'est un 5 pour piger. 2,5 parce que celle que tu vas avoir mis en planification, ben au prochain tour, tu peux la caster pour gratuit. Fait que il y a sûrement des affaires pétées à faire avec ça. Si tu te mets des grosses cartes qui coûtent cher, ben t'as pas besoin de payer leur mana cost quand tu l'as planifié. Il y a le Slickshot Lock Picker qui a 2 colorless, 1 bleu, qui a plot pour 2 colorless, 1 bleu. Fait que vous allez voir, c'est souvent à peu près le même casting cost. Il n'y a pas de gros rabais parce que tu payes plus après. Fait que c'est un peu une façon peut-être de planifier un gros tour. Parce que t'es pas obligé de le caster tout de suite le tour d'après. Tu peux attendre, que tu sois prêt, puis après ça, oups! Tu casses tes spells. Donc lui, c'est un Human Rogue 2-3. Quand il rentre sur le battlefield, tu target un instant ou sorcery dans ton graveyard. Tu lui donnes flashback jusqu'à la fin du tour et le flashback cost est équivalent à son mana cost.
Ouais, j'aime ça, plot, parce que ça peut permettre de faire des storms.
Absolument. Absolument. Oui, il y a des affaires un peu nasty qui risquent de se faire avec ça.
Ben, moi, ce que j'aime, c'est que, surtout en limited, là, c'est que tu te ramasses, mettons, t'as ton 2-3, puis ça écœure jouer une carte juste pour jouer une carte sans profiter de son effet, mais tu veux pas nécessairement comme. Tu veux pas laisser ton mana ouvert.
Tu veux pas te frapper ton tour. Là.
C'est ça, fait que ça l'offre une option que je trouve vraiment intéressante de comme, garde, je m'en fous d'avoir une créature en jeu. Je la paye d'avance, puis éventuellement, je me croise les doigts d'avoir un target intéressant pour lui donner le flashback dans le graveyard. Moi, je trouve ça cool. Là.
Ouais, c'est pas peur.
Ouais, j'aime ça, cette habilité.
Yes. Ça, on l'a vu. Ah, tiens, un autre spree que j'avais mis ici, le Great Train Heist.
Le grand
vol de train, dévaliser le train pour un rouge, plus ensuite il y a 3 modes que tu peux choisir, 2 colorless, un rouge, tu untapes toutes les créatures que tu contrôles, et si c'est ton combat phase, il y a un combat phase additionnel après celui-ci, plus 2 colorless, tu donnes +1/+0 et first strike à toutes les créatures que tu contrôles, et plus 1 rouge, tu choisis un adversaire, et à chaque fois qu'une créature que tu contrôles fait des dégâts à ce joueur-ci, ce tour-ci, tu fais un tapped treasure token. Ça quand même, c'est pas pire là, ça avec ben des créatures qui attaquent. Là.
Ah, j'aime ça. Un des problèmes que, dépendamment des formats, quand que tu vas wide, soit en rouge ou en blanc, souvent, c'est que ça te prend des marges. C'est que ça te prend quelque chose qui fait comme ouais. Ok, garde, j'ai 8-1-1.
Un overrun. Là.
Un overrun, puis qu'en plus qu'ils rendent thématique, ils réussissent à rentrer le flavor rouge, que ça te permet d'attaquer une autre fois, plus que t'as de mana, plus que c'est final, puis tu peux récupérer les treasures. Je trouve ça fit, puis j'aime ça.
Ouais, c'est pas pire. Hein. Fait que, tu sais, là, à date, on a vu trois, là, dans trois couleurs différentes, là, fait que ça je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Sinon, ensuite, qui dit Western dit bien sûr des chevaux, ouais.
Des montures,
mais les montures, hein, c'est pas juste les chevaux. Il va y avoir donc le nouveau creature type mount, mais c'est surtout le keyword saddle qui nous intéresse. Oui, là, toutes les créatures qui ont saddle sont des mounts, là, mais il n'y a pas de lien. Là. Si jamais elle perdait son creature type mount, ça reste. Il y a encore le keyword saddle, là, ça n'a pas rapport. Là. Mm-hmm. On peut voir ici le Quilled Charger, un Porcupine Mount qui a Saddle 2. Il coûte 3 colorless, un rouge, une 4-3. Et puis, dans le fond, le saddle, ça s'active à Sorcery Speed. C'est comme un espèce de crew de créatures, là.
Ouais.
Où est-ce que tu, à Sorcery Speed, tu vas taper n'importe quel nombre de créatures que tu contrôles, autre que le mount. Là. Le mount ne peut pas se monter lui-même. avec le total power équivalent au chiffre de l'habilité saddle. Ici, c'est saddle 2. Fait que tu peux taper 2-1-1, 1-2-2, 1-4-4. Si le cœur t'en dit. Pour saddle la créature, le Quilled Charger. Et lorsque le Quill Charger attaque, lorsqu'il est saddled, il gagne plus 1, plus 2 et menace jusqu'à la fin du tour. Fait que ça va donner des bonus comme ça. Ou il peut se passer des affaires spéciales. Par exemple, avec le Gitrog Monster de Ravenous Ride.
Le retour.
La dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec Talia. Hein, il était team up. J'espère que Talia va bien là, parce que on va voir ce que Gitrog fait. 3 colorless, un noir, un vert, c'est un Frog Horror Mount 6-5, Trample et Haste. Et lorsque Gitrog Ravenous Ride fait du combat damage à un joueur, tu peux te sacrifier une créature qui l'a saddled ce tour-ci, qui l'a monté ce tour-ci. Et si tu fais ça, tu piges X cartes et tu mets X land cards de ta main sur le battlefield tapé où X est le power de la créature sacrifiée. Et puis il y a saddle 1. Fait qu'il coûte pas trop cher à monter, mais il est un peu. il est un peu dangereux.
Il est haste
en plus.
C'est pour, ça qui fait que je trouve qu'il est fort. Là.
Pour 5.
Ouais.
Ouais,
il est bon, lui.
Mm-hmm. Une bonne monture. J'espère que Talia n'a pas été sacrifiée comme ça. Mm. Et puis, sinon, une dernière, c'est pas vraiment une mécanique là, comme telle, mais il y a comme un sous-thème là, que j'ai spoté avec les déserts. On avait déjà calé là, la semaine passée dans les teasers qu'il allait avoir un des Dual Land désert. Et puis les voici, les Dual Land désert, une dans chaque color pair, sont à commune. Et puis ils rentrent sur le battlefield tapé, évidemment, mais lorsqu'elles rentrent sur le battlefield, ça fait un dégât à target opponent.
Et ça, c'est un crime.
C'est un crime! Bien joué. Oui, donc les lands sont criminels. Non, mais c'est une bonne façon de trigger les crimes. Et puis, écoute, je sais que je vais sacrer une game bien serrée où est-ce que je suis sur le bord de gagner puis je vais me faire tuer.
Un
char,
un land, t'es mort.
un ping de désert, c'est sûr que ça va arriver. Et vice-versa, là, probablement. Donc voilà, mais il y a quelques cartes là, qui vont se soucier du subtype desert. Par exemple, la Cactarantula, 4 colorless, 2 verts, qui coûte 1 colorless de moins à caster pour chaque désert que tu contrôles. Là, c'est une 6-5 avec reach. Et lorsqu'elle devient le target d'un spell ou d'une habilité qu'un adversaire contrôle, tu peux piger une carte. Là. Donc c'est, elle devient la victime d'un crime. Tu peux piger une carte. Ou attends là.
Non mais attends-les-vous. Pour une commune.
Ouais, pour une commune, c'est très bon. Mais là, ici, la rare Colossal Rattleworm, 2 colorless, 2 verts pour une 6-5 okay. Qui trample, qui a flash si tu contrôles un désert. Et puis, un colorless, un vert, tu peux l'exiler de ton graveyard, chercher ton deck pour un desert card que tu mets sur le battlefield, taper et shuffle.
Ça te swing une game d'un ball.
C'est mono vert. Stumpy is back, baby!
Il n'y a même pas de côté négatif.
Il n'y a pas de downside, là, non.
Ah, j'avoue, il manque Hexproof là-dessus.
Un petit ward, hein?
Bah oui,
c'est
ward. Hein?
Ça meurt à Doomblade, c'est pas bon, ça. Donc, voilà, c'était un petit avant-goût des mécaniques de l'autre bord de la carte de la semaine. Je vous ai sorti là, quelques cartes de mon cru, là, les cartes qui sont intéressantes, là, des rares, des mythiques qu'on va regarder ensemble.
Fait qu'on écoute un excellent beat à Bone.
Yes.
Excellent. On se reparle dans pas long. Wow. Excellent. Fait que, Emmanuel.
C'est pas pour jouer de mon propre tuba, là, mais la carte de la semaine était une présentation du pub l'adversaire au 4303 Sainte-Catherine-Est. Venez nous voir jeudi, là, on va jouer à Magic Old School, c'est le grand tournoi. Il paraît que peut-être qu'un François viendrait faire un tour.
Ça se pourrait, oui. Je pense même que c'est pas mal sûr.
All right, bon, ben, wow. Jeudi. Puis Jason aussi qui descend des Outaouais pour l'occasion. Ça va être ça.
On
va
peut
être
pas le manquer quand il vient.
Yes, sir. La carte de la semaine. Écoute, on le pensait mort et enterré. On savait plus ce qui se passait avec lui. On avait eu quelques petits indices qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et Tommy va avoir les oreilles qui vont lui sciler en ce moment. Parce que, c'est le grand retour de Jace Bellerin. Trois choses. Il n'était même pas mort. C'est Jace Reawakened. Et puis là, vous constaterez qu'il y a comme la moitié de sa face qui est comme Ashiok.
Ben
c'est
oui.
Que dans l'histoire, il se faisait passer pour Ashiok. On va en reparler peut-être plus en détail quand on va faire le résumé de l'histoire.
Je pense qu'on va essayer d'en parler en détail. On va essayer de faire l'histoire au complet, puis on va en parler trop en détail de ce reveal-là.
Il n'y a pas tant de détails.
Il pouvait pas se débarrasser de la mascotte de Magic.
Il pourrait.
Il était pas completed, il got better, un peu comme Vraska et les autres. On sait pas trop ce qui s'est passé avec lui.
Un jour ils vont nous le dire.
Semble-t-il qu'il tirait les ficelles là, derrière tout ça, que c'était Ashiok depuis combien de temps? On le sait pas.
Ouais, mais c'est tout prévu depuis des années d'avance parce qu'il y a eu déjà eu un Jace qui se clonait, tu sais.
Absolument, c'est vrai. Puis c'est pas la première fois là, qu'il change son apparence. Là. On se rappelle qu'il maintenait l'illusion d'avoir l'air musclé alors qu'il l'était pas. Puis qu'il a arrêté quand il est devenu musclé pour vrai après son passage sur Ixalan. Il est allé au gym. Et en tout cas, c'est Jace. Donc, un Planeswalker à 2 de mana, 3 choses. Il coûte 2 bleus et arrive avec 3 de loyauté. Là, tu vas me dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il y a un petit caveat à ça, une petite clause. Tu peux pas le caster, ce spell, durant ton premier, ton deuxième ou ton troisième tour de la partie. Son plus 1, tu piges une carte, tu discartes une carte. Son deuxième plus 1, tu peux exiler un non-land card avec mana value de 3 de ta main, 3 ou moins. Et puis si tu le fais, cette carte devient planifiée. Elle est plotted. Et puis ensuite, pour moins 6, jusqu'à la fin de ton tour, à chaque fois que tu castes un spell, tu le copies, tu peux choisir des nouveaux targets pour la copie. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
Ben, si tu peux avoir des tours de plus en début de game, c'est ça, je sais pas comment, mais...
Ouais. Ou il y a déjà du monde qui sont comme, ah, mais là, ça dit pas au tour de l'autre. Fait que si t'as, je sais pas, c'est le Ley Line of Anticipation qui te permet de donner flash à toutes tes spells, ben tu peux le caster tour 2 autour de ton adversaire.
Ouais, c'est sûr qu'il y a du monde qui va aller le cheater. Moi, ce que j'aime par rapport à ça côté design, c'est que, tu sais, on dirait, je pense que c'était le premier Planeswalker qui coûtait 2, c'était Tybalt, puis ça a été un échec.
C'était pas bon.
Mais on dirait que ça les titille, là. Ils font comme, ok, ouais. On n'a pas encore. Ils n'ont pas encore résolu le casse-tête, mais tu vois qu'ils travaillent, là. Ça vient les chercher. Fait que, juste leur passion de ce niche-là, de. Je les applaudis.
Ben, il est déjà meilleur que Tybalt en partant.
C'est pas dur.
Je sais bien, mais pour deux, tu sais, en tout cas. Je trouve qu'il est pas super.
Oh oui, je pense que c'est
même
un
bon, si tu le sors tour 4, tu il va te rester du mana pour faire d'autres choses.
Oui, puis il arrive avec 4 de loyauté. Là, 3 ouais. plus 1, ça va vite. Là.
Bon, ouais.
Je pense que ça va avoir du jeu, ça. Au moins en standard.
La question, c'est est-ce que ça vaut la peine, genre, essayer de le cheater en jeu? Probablement pas.
Je pense pas.
Je pense pas qu'il va swinguer d'un game ou non, mais il a sa place dans le jeu.
Ouais. J'en mettrais deux dans un deck. Hein.
Vous l'aurez entendu ici.
Alright. Fait que. On wrap la carte de la semaine avec un autre petit beat à bon.
Let's go.
Let's go. Alright, on est de retour.
Yes, j'ai sorti là, quelques petites cartes. Là. On est encore dans les débuts. Là. Fait qu'il n'y a pas, t'sais, y a pas des tonnes et des tonnes de spoilers qui sont sortis. Mais il y a en masse de quoi se mettre sous la dent. Et puis, je me concentre là, aussi surtout sur les grosses cartes, là, les mythiques puis les cartes rares. Là, parce que les communes puis les zones communes, bon, on s'en reparlera pendant le set, pendant le guide de draft. Là. On peut faire un petit tour là, sur le crew de Oko. Il y a quelques-unes des cartes qui étaient déjà sorties. Là. On avait vu Oko, entre autres. On avait vu Tiny Bones. On a vu Giza un peu plus tôt. On peut voir le Vraska. Tiens, Vraska de Silencer. Un colorless, elle aussi, elle va mieux tout d'un coup. Hein. Avec des jambes. Ben oui, elle a retrouvé ses jambes. Comme Nairi avait retrouvé ses mains qui s'étaient transformées en épée pendant qu'elle était completed. Un colorless, un noir, un vert. Elle est Disparked. C'est une Gorgon Assassin. 3-3 Dead Touch. À chaque fois qu'il y a un non-token creature contrôlé par un adversaire qui meurt, tu peux payer un colorless. Si tu le fais, elle revient sur le battlefield sous ton contrôle en tant que treasure artifact et perd tous les autres types là, fait que elle tourne les créatures en trésor qu'elle peut ensuite sacrifier pour faire du mana. Franchement, là, sur le artwork, elle a vraiment l'air de bien aller. Dans l'histoire, ils disent qu'elle a des grosses cicatrices là, des marques de sa completion là, qui traîne encore là, mais ça paraît pas sur le hardware en tout cas. fait que oui, ça c'en est une. J'ai quand même pas pire là, 3-3 pour 3 de même.
Ouais, non, ça j'aime ça.
Yep. Sinon, ben il y a Kaylan the Kid. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une carte de Kaylan, ben jusque depuis le dernier set. Là. Puis là, ben il ramasse toutes les couleurs qu'il avait expérimenté avec depuis le début. Il est donc vert, blanc et bleu. C'est son mana cost, là. Un vert, un blanc, un bleu.
Human Fairy
Rogue. Ben oui, c'est un gentil certain. Mais là, comment il va vivre sa gentillesse en rejoignant un band de criminels, son père Oko, qui est pas reconnu pour être le plus
noble. Je pense qu'il va le changer.
Personnages. Ouais. On verra. Donc c'est un 3-3 Flying Lifelink, hein, il avait gagné Flying sur Ravnica. Il s'était découvert ses antécédents de fée, là, sa magie féerique là. Lui avait donné Flying, Lifelink également. Puis à chaque fois que tu castes un spell de n'importe où autre que ta main, tu peux caster un permanent spell avec le mana value équivalent ou moindre de ta main, sans payer son mana cost par la suite. Et si tu le fais pas, tu peux mettre un land card de ta main sur le battlefield. Ça marcherait bien avec Plot, par exemple.
Ah oui.
Il faut aussi souligner le unflavorful text. J'ai trouvé qui j'étais, mais maintenant, il me reste à découvrir qui je suis.
Je suis... Ouais, c'est la quête, hein, c'est la quête du personnage. Es-tu innocent, rien qu'un peu?
Ouais.
L'autre, ça, c'est la celle qui arrive, c'est la nouvelle personnage, là, de toute la gang, c'est la seule qu'on n'avait jamais vue. C'est Annie Flash, la vétéran. Elle a 3 colorless, un rouge, un vert, un blanc. Tu ne devineras jamais quel keyword elle a, François.
Flash?
Ben oui, toi, elle a Flash. Je pense qu'on l'avait vu là, dans les early previews. C'est une 4-5 avec Flash. Quand elle rentre sur le battlefield, si tu l'as casté, tu retournes un permanent card avec mana value de 3 ou moins de ton graveyard sur le battlefield tapé. Et puis lorsqu'elle devient tapée, tu exiles les top 2 cards de ton deck et puis tu peux les jouer ce tour-ci. C'est quand même pas pire. Là. Ça fait...
Je trouve qu'elle coûte cher un peu.
Ça coûte un peu cher, effectivement. Écoute, on verra. Sinon, qui d'autre on a? On a Rakdos, hein? Rakdos de Muscle. 2 colorless, 2 noirs, 1 rouge pour une 6-5 Flying Trample, un démon mercenaire. À chaque fois que tu sacrifies...
Ah ouais, il est mercenaire.
Oui, il est mercenaire. Ben oui, il est là pour le cash, là, dans le fond, pour le trésor possible, la possibilité de trésor qu'il y aurait dans le vault, là, dans Mogtaranao.
C'était pas un dieu, lui, genre.
C'est un démon. C'est autant un dieu qu'il y a des dieux sur Ravnica. Il n'y a pas vraiment de déité au même titre qu'il y en aurait, par exemple, sur Teros, là, sur Ravnica. Mais tu sais, c'est un démon millénaire. Là. Il y a genre 12 000 ans. Là, là, il est là pour avoir du fun. Puis ça a l'air à marcher. Ça a l'air marrant.
Il aime ça avoir du fun.
C'est ça. C'est sa motivation principale.
Tu sais, quand t'arrives dans des films un peu noirs ou genre que ça veut dire que post-apocalyptique ou pré-apocalyptique, là, qu'il y en a toujours un qui a plus de fun que tout le monde.
Yes!
Ouais, lui, il se frotte les mains.
Là. Il se frotte les mains en voyant les explosions. Là.
Oh, ouais.
C'est lui. Puis il se met bien chummy avec Tiny Bones aussi. Là.
Je pense que s'il peut, il ne retournera pas sur Ravnica demain matin. Là.
De toute façon, sa guilde s'occupe d'elle-même depuis longtemps sans lui, fait que il n'y a pas besoin d'aller là. C'est donc une 6-5 Flying Trample pour 5 quand même. À chaque fois que tu sacrifies une autre créature, tu exiles des cartes équivalentes à son mana value du top deck target d'un player. Adversaire, ou d'un target player, là, ça peut être toi, et puis jusqu'à ton end step. Ton prochain step, fait que c'est toi aussi, si c'est à ta tour de l'autre, là, tu peux jouer ces cartes-ci et puis payer le mana avec n'importe quelle couleur pour caster ses sorts. Et puis t'as dessus lui-même l'habilité de sacrifier une autre créature pour lui donner indestructible. Tu donnes indestructible à Rakdos, tu le tapes et tu peux seulement l'activer une fois par tour. Donc ça c'est pas pire.
Ça, ouais, dans les decks.
On se rappelle, il y avait le... c'était quoi son nom? C'était pas l'Incinerator, là, mais il y avait un dragon rouge-noir. Là, ça fait pas longtemps qu'il y avait
un vampire aussi.
Ouais, vampire dragon là, qui avait une habilité semblable. Puis ça avait été quand même nasty là, dans les decks de Rakdos Sacrifice. Là. Fait que ça, je pense qu'il va trouver sa niche, d'après moi, Rakdos. Parlant de Tiny Bones, on voit ici sur l'enchantement Tiny Bones Joins Up. Puis là, de ce que j'ai cru comprendre, il a l'air d'avoir plusieurs cartes comme ça, où est-ce que c'est comme la c'est un peu à les hôtes du Gatewatch, là, qui avait le Hôte of
Tepic.
Là, c'est comme chacun des personnages du crew de Oko.
Ils joignent le crew pour une raison à eux.
Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont comme leur enchantement qui est ça. Fait qu'on voit avec Tiny Bones pour un noir, c'est un Legendary Enchantment. Lorsqu'il rentre sur le battlefield, any number of target players discarde une carte. Et puis, Lorsqu'une créature légendaire rentre sur le battlefield sous ton contrôle, n'importe quel nombre de joueurs se mille d'une carte et perdent un de vie. Ça fait un effet récurrent en plus d'un effet en rentrant sur le battlefield.
Ah, oh, j'aime ça.
C'est bon, ça.
J'aime ça parce que, tu sais, il avait expérimenté avec les backgrounds, comme que tu peux avoir un enchantement dans ton Commander Zone d'une certaine façon. Puis, généralement, quand Wizard commence à trop creuser puis imprimer des mécaniques pour Commander, je trouve ça un peu wonky. Des fois, ça marche, des fois, ça marche moins bien. Mais qu'ils utilisent ce qu'ils ont commencé à explorer en design de ce côté-là puis qu'ils l'amènent dans d'autres formats puis que de quelque chose qui me flatte plus dans le sens du poil, je trouve ça cool. Là.
Ouais, mais ça rappelle vraiment les hôtes. Là. Les hôtes, ils avaient à peu près le même principe. Là. Il y avait un effet en rentrant sur le battlefield, puis après ça, un effet permanent, là, un passif qui continuait. Oui. Fait que je suis curieux de voir combien il va en avoir. Je sais pas s'il va en avoir un pour chacun des membres. Là,
ils sont 7, hein?
Ils sont plus que ça. Là, on les a pas tous vus encore. Là, d'ailleurs, je pense que j'en ai oublié un, là, mais il y a Satoru, il y a Kaervek qu'on n'a pas vu encore sa carte. Je pense que Satoru, sa carte vient de sortir. Là, fait que ça, je l'avais pas. On a vu Giza, mais il y a aussi Geralf, que lui non plus, on n'a pas vu sa carte encore. Fait que tu sais, Geralf, Giza, déjà deux, Satoru, Kaervek, Tiny Bones, Rakdos, Vraska, Kellan, Oko, on est déjà rendu à presque 10. Là. Ouais. Puis Annie Flash. Fait que sont une bonne gang. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Écoute, Magda, The Orb Master, qui fait un retour, la naine de Kaldheim. À pas rapport là, avec la gang, avec le crew, là, juste sur le plan pour le fun. De toute façon,
elle est même pas dans une classe de méchant.
Non, c'est pas un Outlast, c'est un Berserker, Dwarf Berserker, pour un colorless, un rouge pour une 2-2. À chaque fois que tu commets un crime, tu fais un treasure token tapé, et ça trigger seulement une fois par tour. Et puis tu peux sacrifier 3 trésors pour créer un 4-4 Red Scorpion Dragon Creature Token avec Flying et Haste seulement en Sorcery.
Il fallait qu'il soit scorpion le dragon, tu sais.
Oui, ben c'est pour fitter un peu le thème là. Mais ça peut aller rapidement là, faire des trésors surtout avec si tu mets Vraska ou d'autres trucs là. Fait qu'on va voir à quel point il y a des trésors dans le set là, mais c'était un peu éloigné des trésors depuis quelques sets là, ben là ça revient. Parce qu'il y avait d'autres d'autres tokens artefacts qui prenaient la place. Mm-hmm. Sinon, il réimprime les lands qui rentrent en jeu tapés à moins que tu contrôles deux autres lands ou moins. Là, fait que si t'as à ton tour 3, tu peux encore la jouer untapped. Les dual lands, là, c'est des rares là, Council Courtyard. Là, dans le fond, ils complètent le set pour qu'ils soient tous en standard. Et puis sur les borderless, on peut voir que le artwork se rejoint pour faire un espèce de grand train qui traverse le désert.
Pas de rail. Il y a
une espèce de rail.
Ils sont surélevés.
L'autre là, ouais, c'est un peu bizarre. Je sais pas comment ça marche cette histoire là. Mais il se fait attaquer là. C'est le train qui se fait attaquer d'ailleurs par la gang de Oko à la recherche d'un dude random.
J'aime ça que parmi tous les choix du cycle de land rare qu'ils pouvaient utiliser, ils sont allés vers les fast land.
Ça va vite, c'est un train.
Bye-bye.
Tchou. Sinon, que je vous ai sorti, justement, la clé de la vault, ça va être je pense que c'est le box, pas le box topper, là, mais le buy a box promo. C'est un artefact, un équipement, un colorless, un bleu. Legendary Artifact qui coûte 2 colorless, un bleu à équiper. Et à chaque fois que la créature équipée fait du combat damage à un joueur, tu regardes le nombre de cartes équivalent au dommage que tu as fait du top de ton deck. Tu peux exiler un non-land card parmi celles-ci, remettre le reste en dessous de ton deck et puis caster la carte exilée sans payer son mana cost. Oh là là! Il y a sûrement des petits combos à faire avec ça.
Et tabarnouche, oui.
Non, il est pas d'accord. Laissez ça tranquille, caster des spells gratis. Lâchez-moi patience avec ça.
Il y a beaucoup de ça, hein.
Ouais. On parlait juste aussi là, avec Plot. Là. C'est peut-être le retour des decks que prouesses sont jamais vraiment sortis, là, sont jamais vraiment partis, sont déjà encore très présents dans certains formats. Ça va probablement aller se rajouter dans ces decks-là. Le Slick Shot, Show Off, un colorless, un rouge pour une 1-2 Flying Haste. Qui a Plot, un colorless, un rouge, fait que déjà c'est pas pire. Parce que tu, à chaque fois que tu castes un non-creature spell, il gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour.
Ben oui.
Hein, fait que tu le plottes tour 2, tu le joues à ton tour 3, tu castes un lightning bolt, whatever,
ben, un choc, un
expressive iteration, là, en tout cas, toutes les spells qui sont dans ces decks de spell slinger là, ça devient une 3-2 flying haste rapidement. Je pense que ça va avoir du jeu.
Ah oui, définitivement.
Et puis, une petite dernière, je me suis gâté, c'est pas une carte rare, c'est une commune, mais holy cow, quelle carte que c'est ça. Ah non, mais c'est, oui, c'est ça. C'est ça la carte. C'est holy cow. C'est le nom de la carte. 2 colorless, 1 blanc pour un Ox Angel. Oui, monsieur. Il y a 2-2 flash flying. Quand il rentre sur le battlefield, tu gagnes 2 de vie et tu scry 1. C'est la vache ange.
Ben oui.
Ah, c'est si beau.
J'apprécie. Je suis. Les mots me manquent.
Ça fait quasiment un set, là.
Oui, hein, ça rappelle pas mal. Ça fait pas mal un set, effectivement. Puis il y a même. Il y a une carte là, qui est comme le Holy Cow Intervention.
Ah non.
Wow. Et alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, pour commencer notre exploration de Thunder Junction.
C'est un bon... Mon intérêt est piqué. J'ai hâte de le drafter et d'aller au pre-release. J'espère que je vais être capable de me libérer. Fait que tu disais, jeudi, c'est la grosse game, gros tournoi.
Yes, le tournoi de Magic Old School, le format paladin. Là, fait qu'il y a certaines cartes qui sont... Restrict là, pour être plus gentil. Et puis on va
voir ce que ça donne. Que le prochain épisode de Terrain Basique, ça soit
ou disons dans un mois là, quand on va passer le Thunder Junction là, mais ouais. Oui, on va essayer d'enregistrer un petit quelque chose là-bas, c'est sûr. Sinon ça sera peut-être un petit extrait là.
4303 Sainte-Catherine, si je me souviens.
C'est là que ça se passe.
Excellent.
Puis on a un karaoké aussi samedi.
Karaoké samedi, ça, il y a des chances que j'y aille.
Yep, ça dit le 30 mars, karaoké de Pâques. Sortez toutes vos tunes avec thématique de lapin.
C'est un bon moment pour se pâquer la gueule.
Bravo. Pour ça, je te paye un drink.
Ah, merci.
Excellent. Fait qu'on rappe ça.
Yes, sir.
On dit merci à tout le monde. Merci François, merci Emmanuel. Piu, piu.
Merci à toi, Jonathan.
Merci, je vous rappelle le soundtrack, il y a des piou-piou dedans. Wild Guns Reloaded, vous pouvez jouer la version normale aussi sur Super Nintendo. On remercie Martin Godette pour leur montage. On remercie les plateformes de streaming, YouTube, plateformes de podcast que vous préférez. Merci de nous diffuser. Et on se reparle la semaine prochaine.
Avec plaisir.